Cet épisode vous est proposé dans le cadre d'une sélection spéciale anniversaire des Pieds sur Terre.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Des histoires, des enquêtes, des reportages.
C'est bizarre quand les choses arrivent.
Pour se moquer des conducteurs de SUV type Hummer ou 4x4 qui n'ont à peu près d'utilité que dans la brousse ou sur les terrains de guerre et qui en plus du ridicule sont extrêmement polluants, les activistes des groupes climat lors du Forum social à Londres en 2004 proposaient des actions originales. Déguisés en fauves, les militants s'immisçaient dans la circulation londonienne et grimpaient sur les pare-brises des SUV en rugissant tels des lions dans une savane trop imaginaire. Depuis les années 60, les militants écologistes essaient en effet d'attirer l'attention et d'agir de toutes sortes de façons, des plus radicales aux plus humoristiques, des plus pacifistes, comme poster une photo sur Instagram ou occuper la place du Châtelet, aux plus violentes, comme certains éco-sabotages, destruction de sites, incendies, piratage, canulars, comme les Yes Men, dégonflage de pneus, organisation de battues de chasseurs, je les cite pêle-mêle, mais ils représentent des philosophies très différentes. Andreas Malm est l'un d'eux, c'est un militant suédois pour le climat. Il est aussi maître de conférences en géographie à l'université de Lund et vient de publier un livre qui s'appelle « Comment saboter un pipeline » et qui fait un bilan des méthodes d'action contre le changement climatique pratiquées par des groupes comme Earth First, le Front de libération des animaux et le Front de libération de la Terre. Pour lui, c'est simple, ils n'ont eu aucun effet. Leur bilan est parfaitement nul et ils ont au pire constitué le symptôme d'une impasse et d'un désespoir exacerbé, comme le cite Nabil Wakim dans Le Monde. Andreas Malm se moque de ces activistes blancs de bonne famille que nous appelons nous des bobos et qui bloquent des trains empêchant des ouvriers noirs et indiens d'aller travailler et ne changent en rien pour autant au réchauffement climatique. Il défend au contraire des actions plus directes, plus violentes sur le modèle de la lutte contre l'apartheid, des suffragettes ou encore le mouvement des droits civiques aux États-Unis. L'effondrement et moi, c'est le deuxième épisode de cette petite série et il porte sur ce thème. Tandis que les Nations Unies appellent à profiter de la crise du Covid pour contenir le réchauffement climatique, Karine Le Loët, au risque du ridicule et de l'inefficacité, s'est tout de même essayée à l'action plus ou moins radicale et transformée le temps d'un épisode en éphémère éco-guerrière.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
On est mi-septembre, entre deux confinements. Ce jour-là, je retrouve des amis en terrasse, au bord du bassin de la Villette, à Paris. Il y a Cécile, François, et puis surtout Chloé.
Le groupe d'affinité, c'est les personnes avec qui tu vas avoir le même niveau d'engagement dans l'action, les personnes avec qui tu vas te poser plein de questions avant de partir, de t'es prêt à dormir, toi, ou pas, ou tu préfères rentrer plus tôt, ou est-ce que
dormir ou dans l'action ?
Dans la mine, ou dans, sur les rails, ou...
Chloé, elle a quelque chose que moi, je n'ai pas. C'est une activiste. Pendant que je me morfonds sur l'état de la planète, elle s'engage physiquement dans des actions de blocage de centrales ou de mines aux côtés d'Ende Gelände. C'est un mouvement de désobéissance civile allemand qui vise à stopper l'exploitation très polluante du charbon. Entre le demi de bière et la salade de thon, elle déroule le glossaire de ce mystérieux mouvement.
Ah oui, le finger, c'est comme une colonne militaire, en fait, qui regroupe à 100, 200, 400, 600 personnes.
Ce que Chloé est en train d'expliquer, c'est qu'Ende Gelände fonctionne comme une main, avec plein de doigts, ou des fingers. Des groupes de personnes, donc, qui se déploient sur un territoire truffé d'installations industrielles. Tous en même temps, pour disperser l'attention de la police.
Si tu avances tout d'un bloc, bah, tu butes contre ceux qui veulent t'empêcher de passer, soit les barrages de flics, soit la sécurité privée des mines.
Et chaque groupe a sa mission. Squatter une mine ou une centrale pour bloquer la production, arrêter les trains qui acheminent le charbon vers l'usine. Chloé, j'ai toujours cru qu'elle était timide. Alors quand elle m'a raconté ses premiers affrontements avec la police allemande, j'avoue que ça m'a soufflé. Ce jour-là, en terrasse, l'idée fait son chemin. Si elle peut le faire, pourquoi pas moi ? Je me dis qu'il me faut peut-être une solution radicale, passer enfin à l'action. Alors je décide de participer à la prochaine campagne d'Ende Gelände. Elle aura lieu fin septembre en Rhénanie, au milieu d'un bassin minier qui s'étale entre Bonn, Cologne et Aix-la-Chapelle. Chloé ne peut pas m'accompagner, mais à la place, elle m'équipe. Une tente, un sac de couchage, une couverture de survie et une frontale.
Là, c'est le sac de couchage méga chaud, moins 10 degrés, qui avait servi pour dormir sur les rails par moins 5 degrés il y a 2 ans. La couverture de survie.
Ok, et ça, tu t'en sers pour quoi ?
Alors, soit tu t'en sers pour te protéger du soleil si tu restes une journée en plein cagnard, soit s'il fait froid la nuit, tu mets sous le sac de couchage ou sous la tente. Okay. Ça te fait gagner quelques degrés aussi. Et la lampe frontale.
La lampe frontale.
Si jamais tu dois marcher de nuit.
D'accord.
C'est une reprise de pouvoir hyper forte. Et puis de plus se sentir seul dans son coin avec ses angoisses, de se dire que probablement tous les gens autour ont le même niveau de lucidité et d'anxiété par rapport à ces questions-là. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Du coup, ça fait un bon antidépresseur. Il y a une grande joie quand même dans ces moments-là. Enfin, tu verras.
Et c'est comme ça que je me retrouve un petit matin d'automne dans un train vers l'Allemagne. J'ai mis des chaussures de rando, une polaire toute neuve et mon blouson de ski. Je me sens super bien équipée, prête à toute éventualité. Mais quelle éventualité ? Le programme du week-end est gardé top secret. Ceux qui veulent participer ont juste pour instruction de se rendre à un des points info tenus par l'organisation dans chaque gare de Rhénanie, pour y recevoir des directives. Sauf que moi, j'ai déjà mon guide. Chloé m'a mis en contact avec un ami à elle, un habitué d'Ende Gelände. Sur une messagerie cryptée, il m'a donné des instructions pour me retrouver à l'arrivée.
Ça va ?
Et toi ?
Merci de venir me chercher.
Ouais, pas de soucis.
Je peux mettre ça derrière ?
Oui.
Ce jeune homme, c'est Piaf. Enfin, c'est son pseudo. Lui et ses copains activistes, ils appellent ça un blaze. On va retrouver le groupe de Piaf sur un des camps de base de l'organisation. Je m'installe dans la voiture, entre des sacs de couchage, des chaussures pleines de terre et même une petite plante qui pousse à l'ombre du frein à main.
C'est assez joli par ici.
C'est un peu plat, c'est très urbanisé. Il y a beaucoup de pylônes. Moi, c'est pas ma cam. Ça, c'est la centrale à charbon de Niederhausen.
Là, les grandes cheminées, là ?
Ouais, c'est hyper impressionnant. Et puis, il y en a une juste derrière toi, la plus grande centrale à charbon d'Allemagne, qui s'appelle Neurath, et qui émet énormément de CO2. L'ensemble des mines de charbon et de centrales à charbon qui sont ici, c'est la source d'émission de CO2 la plus importante d'Europe.
Ces centrales et ces mines sont exploitées par RWE, l'équivalent régional d'EDF. Ce sont nos cibles du lendemain. L'Allemagne a promis une sortie du charbon en 2038, bien trop tard pour le mouvement Ende Gelände. D'ailleurs, Ende Gelände, ça veut dire littéralement « ici et maintenant ».
Chaque groupe fait une action différente.
Parfois, c'est rentrer dans une mine. Parfois, c'est bloquer des lignes de chemin de fer qui acheminent le charbon à la centrale. Nous, on va faire autre chose. Mais j'ai pas trop envie d'en parler. Je pourrais t'en parler quand le micro sera éteint. Donc je pense que...
Piaf et son groupe gardent leur action secrète pour éviter que les infos arrivent aux oreilles de la police. Je sais juste que c'est une petite bande autonome chargée d'une mission un peu spéciale. Un commando de choc dont j'ai seulement le droit de suivre les préparatifs, en observatrice. On rejoint le petit camp des activistes planté au beau milieu de la campagne. Il y a des barnums et une cantine gratuite, des silhouettes penchées sur des réchauds bricolés et des toilettes sèches. Sous une toile de tente battue par la pluie, la bande de Piaf teste de vieux téléphones.
Yes.
Leur smartphone personnel pourrait être géolocalisable par la police. Alors, pour pouvoir communiquer entre eux, ils ont récupéré de vieux appareils avec des écrans noirs et blancs et des grosses touches. Et puis, à l'écart des autres, Piaf me raconte la genèse de son engagement.
Je pense que j'avais beaucoup de colère en voyant les destructions qu'il y a autour de moi au cours de mon adolescence. Et puis ensuite, en tant que jeune adulte, je pense que j'ai une forte sensibilité à la beauté des paysages. Et en fait, je ressens beaucoup de violence quand je vois les destructions qu'il y a. Des montagnes qui sont abrasées par des carrières, des fleuves avec des plastiques qui flottent. Et puis simplement même de voir des nuages de fumée qui sortent des voitures, des automobiles, des embouteillages. En fait, partout, je vois de la destruction et ça m'impacte. Et face à cela, ma manière de réagir, c'est de me battre, de lutter pour changer les choses. Je pense que j'ai beaucoup d'espoir que les choses peuvent changer. Et je pense que Ende Gelände, c'est un bel exemple aussi parce que quand on marche sur une mine de charbon, on a l'impression d'être sur la Lune. Et c'est tellement disproportionné comme truc de se dire que, en fait, il y a des humains qui ont mis des milliards d'euros en jeu pour creuser la Terre et la brûler, littéralement la brûler, quoi. Je comprends pas que les gens soient pas atterrés par ça ou touchés ou attristés. C'est une immense colère, ouais. Mais jusqu'à présent, en fait, j'ai vraiment réussi à transformer ça en action, en fait. Je ressens de la puissance, comme si j'arrivais enfin à crier non et que les personnes qui sont en mesure d'arrêter ça l'entendent. Parce que chaque minute de blocage coûte beaucoup d'argent. C'est presque jouissif, en fait, d'arriver à un tel impact, simplement en s'asseyant sur des rails ou en allant s'enchaîner sur une escalatrice.
T'as peur des fois ou pas?
Ouais. Ouais. Bon, quasiment tout le temps. La police utilise des matraques ou des sprays au poivre qui peuvent faire très mal.
Et tu continues malgré ça, du coup?
Ouais, parce que je sais que ce que je fais est juste. Et ça, c'est vraiment le plus important. Même si on m'enferme, même si on m'envoie devant un juge ou quoi, je saurais assumer ce que j'ai fait. Jusqu'à maintenant, je pense que c'était plutôt l'espoir qui m'habitait quand je faisais des actions. Et aujourd'hui, je pense que je ressens beaucoup plus les impacts du changement climatique dans ma chair. Et face à ça, l'énergie que je peux déployer, c'est une forme d'énergie du désespoir. Et j'aime pas trop ça. C'est pas forcément très agréable à ressentir. Comme si c'était maintenant ou jamais, quoi. C'était... Il n'y a plus rien à perdre.
Autour de moi, ils sont une dizaine. Gnocchi, Piaf, Tuna, Lio, et j'en passe. Tous ces surnoms un peu potaches. J'ai l'impression de participer à un joyeux camp scout. Moi, je ne sais rien d'eux, parce qu'ils protègent leur identité. Ils viennent peut-être de familles bourgeoises ou franchement anards, ou alors ils sont profs d'histoire, paysans bio ou banquiers en quête de sens. Tout ce que je vois, c'est qu'ils ont plus ou moins 30 ans et un style plutôt baroque. Ils discutent des derniers détails pour leur mystérieuse action du lendemain. Avant de prendre une décision, ils sondent chacun. Dans les mouvements activistes, ça s'appelle la prise de température. Quand ils ne sont pas très chauds pour faire quelque chose, ils secouent les mains vers le bas. Quand ils sont indécis, c'est à l'horizontale et enthousiastes, vers le haut. À la fin de leur discussion, il y a deux filles qui se mettent à fredonner. Kaku et Plouche.
C'est une aventure qui prend tout son sens quand tu le partages avec d'autres. Ça crée une énergie supérieure à celle juste personnelle et pour répondre à une angoisse égotique de « Ah, je vais peut-être mourir demain enfin, ».
Toi, tu as cette angoisse de « Ah, je vais mourir demain » ?
Non. Bah, c'est pas tant « Je vais mourir demain » qu'on est en train de tout faire foirer et on est en train de tuer la vie autour de nous. Et ça, ouais, ça c'est une vraie angoisse, ouais. Moi, je suis super pessimiste sur comment est-ce qu'on va vivre le 21e siècle. Genre, si je suis lucide, je sais qu'on n'arrivera pas...
Alors, pourquoi tu le fais ?
Parce que je pense que si on est en train de détruire la vie, par ailleurs, la vie est ultra résiliente et qu'il y a quelque chose qui peut exister après. Que ce ne sera pas forcément ce qu'on a connu. Et puis en fait, simplement pour que la vie au quotidien ait du sens, parce que genre, quitte à vivre, autant que ça prenne le sens et le chemin du respect de la vie autour de soi et de l'empathie.
Et ici, ça ressemble un peu à ça.
Bah, c'est une des stratégies. Ouais. C'est un des trucs qui permet aussi de se sentir moins seul dans cette lutte-là pour la vie, j'ai l'impression.
Seulement.
On va faire ça demain à 5h.
C'est clair. Leur action doit débuter à 5h le lendemain. Sauf que moi, je ne serai pas avec eux. Ils me le disent pas comme ça, mais je crois que je suis un peu trop visible, pas assez furtive. Alors on me propose de rallier un autre groupe. Sans doute une action plus pépère pour quadragénaires débutants. J'ai rendez-vous à 5h45 à la gare de Bonn avec le Finger International, l'un des 7 groupes déployés ce jour-là sur ce petit bout de Rhénanie. Je ne sais ni où on va, ni quelle est la cible de l'action. La plupart des 200 activistes autour de moi n'en savent rien non plus. Mais ça n'a pas l'air de perturber un petit groupe de Français que je croise sur le quai. Ils patientent tranquillement en boulottant des saucisses et des boulettes veggie.
Vous le faites souvent, vous, ou pas? J'ai déjà fait plusieurs fois.
Ouais.
Et nous, tout le reste, c'est la première fois.
Moi, j'étais aussi l'année dernière au contre-sommet du G7 et à la marche des portraits aussi. Après, en action blocage, Italie 2 l'année dernière. Nous, là, c'était avec plusieurs collectifs différents. Et après, Châtel.
On monte dans un train. Autour de nous, des activistes se grattent la pulpe des doigts avec des aiguilles pour effacer leurs empreintes.
Tu mets juste la colle sur les doigts, elle ne s'accroche pas, et ça s'en va.
Donc tu mets de la colle et après...
Non, tu fais des trous dans ta peau. Et dans les
Tout le monde est masqué, en combinaison blanche. Ça fait quand même un drôle de cortège. Sur le siège à côté de moi, il y a Marie, la trentaine et des tresses brunes. Comme Piaf, c'est la destruction de la nature autour d'elle qui a fait grimper sa colère.
Après mon engagement, je pense qu'il a commencé à naître sur le fait que je ne pouvais plus rester à rien faire. En fait. Au bout d'un moment, de constater ce qui se passe et juste moi ne plus l'accepter. Et c'est aussi cette envie de secouer tout le monde en leur disant « s'il te plaît, ouvre les yeux ». Il suffirait qu'on se lève un petit peu plus et on pourrait carrément tout changer. Quoi. Et pour moi, c'est important de faire des actions. Maintenant, depuis que je l'ai fait, en fait, je me rends compte que si je n'en fais pas souvent, je sens un vide en fait, vraiment. J'ai l'impression de perdre ma raison en fait, enfin pas ma raison, mais du coup de me laisser engloutir par le système et on va pas réussir à le changer. De toute façon, on est foutu, on va mourir. Bon bah, quitte à mourir, autant profiter. Moi, je reprends mon avion, je me retourne voyager en Amérique du Sud et je suis ravie. Et j'ai tendance plutôt à faire ça quand je suis un peu toute seule. Le fait de refaire une action, ça me remet en énergie, ça me redonne la patate pour après continuer à faire mes petits grains de sable dans la tête des gens, des amis, des proches. Enfin, moi, ça fait quand même quelques années que je donne mon temps au militantisme. Ça nuit beaucoup à ma vie personnelle aussi. Hein. Moi, j'ai été mariée avec quelqu'un et en fait, on s'est séparés parce que moi, c'est trop important pour moi de lutter. Et pour lui, pas du tout. En fait, ce qui est super important, c'est pour moi dans ma vie, c'est de faire les deux choses, c'est-à-dire lutter pour continuer à bloquer, à faire pression et à faire connaître ce qu'on fait, et de l'autre côté, préparer les alternatives. Donc moi là, ça va faire à peu près un an et demi, deux ans que je commence à essayer de me former un max, d'être le plus possible autonome. Donc j'ai fait des formations sur un peu de l'autoconstruction, sur de la permaculture. Voilà, j'apprends un maximum de choses dans l'idée de prochainement m'installer dans un lieu. Si on vit à 10, on construit beaucoup plus vite un bâtiment, on est beaucoup plus efficace dans la répartition des tâches. Et moi, le jour où ça va s'effondrer, je serai prête. Donc voilà, je trouve que c'est très important d'être sur les deux fronts encore, parce qu'on a encore le temps de continuer à convaincre. Après, je pense que si on continue à rester un peu la tête dans le sable, au bout d'un moment, moi, je vais arrêter la lutte et je vais juste aller m'installer dans mon coin et ça sera, enfin voilà, ça sera la fin pour moi. Là, je pense que je croirai plus qu'on pourra sauver tout le monde et je crois que je vais me sauver moi-même en fait et mes proches.
Dans le train, en route vers notre objectif, on ne sait pas vraiment qui dirige notre groupe de 200 activistes. Mais les infos passent, relayées par la foule. Il faut monter dans le prochain train, descendre à la prochaine station. Alors on attend sur des quais trempés. On monte 5 ou 6 fois dans des wagons. les activistes se laissent porter, confiants. Ça fait plus de 3h30 qu'on est parti. C'est le terminus, la gare de Friemersdorf, en pleine campagne, à une quarantaine de kilomètres de Cologne.
On se met en ligne, les loulous.
Nous, on prend le côté gauche.
On passe un panneau où il est écrit « Interdit d'entrée ». Et on entre, avant de s'enfoncer dans une petite forêt. Au bout d'une heure, on aperçoit une masse sombre, au loin.
C'est la mine, là?
Là, c'est quoi?
Ah, là-bas. Ah, pas loin, quoi. Franchement, on est pas loin. Et je suis très content parce que je voulais pas bloquer la centrale, parce que j'ai déjà bloqué la centrale, alors j'aime bien faire des trucs différents. Donc là, on va bloquer la mine, et ça, c'est très cool.
Elle est enfin là, notre cible. La mine de Garzweiler. Une mine à ciel ouvert de lignite, cool. Un type de charbon cool, mais... extrêmement polluant.
Mais nous, on est cool, par contre.
Moi, honnêtement, je vois surtout une petite série de collines pas très impressionnantes. Mais John, l'un des Français, me dit qu'en contrebas, s'étend un désert de terre noire, un paysage glauque et poussiéreux.
En fait, l'angoisse climatique, ça m'a fait faire une grosse dépression. J'ai mis peut-être 2-3 ans à m'en sortir. Ça a commencé quand je suis allé vivre en Allemagne, justement. J'ai habité 2 ans à Berlin. Et je connaissais personne et du coup j'ai passé l'hiver sur Facebook ou sur Internet à voir des documentaires, à lire des bouquins. J'ai eu un gros shoot de prise de conscience et ça m'a complètement mis dans le fond, quoi. Et donc maintenant j'en suis sorti de l'angoisse, la dépression ou l'angoisse, ça me fait plus peur. Mais par contre ça me donne une puissance pour faire des choses parce qu'en fait je sais que ce qu'on fait c'est légitime et en fait c'est le savoir ce qui va se passer et avoir passé cette angoisse. C'est comme les différents stades de l'acceptation d'un décès. Au début, on est complètement écrasé, puis ensuite on s'en sort et on affronte, on en tire même de l'énergie. Et je sais qu'on est légitime, c'est pas juste une question de point de vue politique. Ou... En fait, il y a la... Je dirais pas que c'est... On reprend plus tard si tu veux. Mais j'allais dire, c'est pas le bien.
En même temps que les contours de la mine, on les distingue au loin. Une dizaine de camions bleus et des agents de police sur des chevaux qui nous attendent.
C'est quoi le but là? C'est chat-souris?
Chat-souris. En fait, c'est plutôt Pac-Man contre les fantômes gloutons. On traverse les champs en suivant les sillons pour tenter de rejoindre la mine et bloquer les machines qui creusent son sol. Quand les policiers bloquent le passage, on change de direction. On zigzague comme ça, à vive allure, en enjambant des carottes et des pieds de rhubarbe. Je fais ce que je peux pour suivre la cadence. Et puis à un moment, c'est la confrontation. Un mur d'une quinzaine de policiers, perché sur des chevaux immenses, bloque un passage un peu plus étroit. Je m'arrête net, pétrifié. Je reste comme ça plusieurs secondes. Et je finis par rejoindre Marie, la jeune femme qui était à côté de moi, tout à l'heure dans le train.
Donc il vient de se passer qu'on a essayé de faire une première rentrée sur la mine. Donc quand on est arrivé sur le champ, les flics ont commencé à nous encercler avec les chevaux et d'autres en pied. Du coup on a quand même forcé avec les chevaux, on est passé. Ils ont commencé à courir. Donc ils ont bien fait monter l'adrénaline dans chacun de nous. On s'est mis à courir aussi. Et arrivé à l'endroit fatidique où il ne reste plus qu'une petite barrière d'herbe à traverser, certains ont commencé à essayer de traverser. Ils nous séparent. Certains ont essayé de traverser, ils n'ont pas réussi. Donc ceux qui ont traversé, ils se sont fait récupérer, ils se sont pris des coups de matraque et ils ont été remis ensemble. Et là, on essaie de remarcher pour essayer de nouveau rentrer dans la mine. C'est assez chaud, c'est très stressant et il faut en sorte en fait de nous faire flipper et ça marche. Ça va un peu mieux, mais quand on a couru, j'ai flippé. Surtout que j'ai perdu mon groupe et que j'ai couru toute seule et j'ai flippé. Et une fois que j'ai retrouvé mon groupe, j'étais mieux. Est-ce qu'on peut rester ensemble, s'il vous plaît?
La tension monte. Il y a un type qui se retrouve au sol, menotté, le visage enfoncé dans la terre, à 5 ou 6 mètres de moi. Et puis les policiers nous enferment dans une nasse pour nous empêcher de rejoindre la mine. On reste comme ça, près de 2 heures, sous la pluie, au milieu d'un champ de betteraves, à grignoter des noix de cajou et des abricots secs. on s'enroule dans nos couvertures de survie pour se réchauffer. Les Français se préparent déjà à dormir là. Moi, j'ai pas très envie. Et puis, à un moment, ça bouge.
Il va se passer quelque chose.
En fait, ils vont nous dégager, vont nous ramener au train, et si jamais on revient, ils nous mettent en garde. Mais par contre, il y a d'autres mines dans d'autres endroits. Donc...
Ouais, sur les ordres des policiers, on s'éloigne de la mine.
Les fumeurs, est-ce qu'ils ont des...
Mais les organisateurs ont un plan B, bah ouais, là, aller bloquer des rails de trains de charbon un peu plus loin.
En vrai, j'aurais juste une autre paire de chaussettes. Enfin, j'en ai une autre, mais c'est pour la nuit.
Sur le bord de la route, Vivi essore ses chaussettes.
Je pense un peu plus de nourriture. Je pense que là, on est en train de pas toucher nos limites. C'est beau. Enfin,
tout le monde est épuisé.
C'est dans la tête. Je pense que là, c'est vraiment... On joue sur...
Mais ils discutent, se remotivent.
Notre confort, le froid. Mais si on se motive et qu'on arrive à bloquer les rails, après, on sera bien compensé. Alors que là, si on part maintenant...
Sauf que moi, j'y arrive pas du tout à me remotiver. Je ne sais pas si c'est la faim, le froid, ou les 15 bornes parcourues dans la boue. Mais à ce moment-là, j'y crois plus. Sur le chemin, John sort une enceinte et se met à rapper. Moi, je les laisse s'éloigner, colonne blanche dans la campagne.
Dans un océan de merde qu'on rame. Écoute le râle, c'est du rap subversif, la merde est grave constante, on n'est pas content, déçu et triste. Arrête, ne fais pas comme si rien ne se passait. Leur monde pue, le sombre pue vient de l'abcès.
Les rails, ils iront les voir sans moi. Je rentre. Le surlendemain, une fois rentrée à Paris, j'appelle Marie. Une heure après ma désertion, le groupe international a rejoint les rails qu'il convoitait.
Gros soulagement et gros moment de joie pour tout le monde. On avait réussi enfin à mettre les pieds sur notre but, donc c'était super. Donc voilà,
la police a débarqué un quart d'heure plus tard. Elle me raconte qu'un à un, ils ont été portés sur des plateformes de train, puis embarqués dans des bus. Ils ont roulé pendant des kilomètres. Ils ont été lâchés dans des gares au milieu de nulle part. La police voulait leur passer l'envie de revenir vers la mine. Ils ont fini par rejoindre Bonn à 6h30 du matin.
Je me sens super fière, je me sens ravie d'avoir fait ça. Au final, on avait resté peut-être 4 heures à bloquer les rails. Et c'est toujours 4 heures de moins dans l'industrie, mais on a l'impression que finalement, c'est jamais assez et que ça donne envie de rester bloqué à vie sur ces rails et qu'il n'y a plus rien.
À entendre Marie raconter la victoire du groupe, c'est vrai que je suis un peu déçue. J'ai abandonné trop vite, ou peut-être pas. Parce qu'au fond, c'était trop pour moi, trop dur et trop déroutant à la fois. Je vais chercher d'autres solutions.
C'était L'effondrement et moi, deuxième épisode, l'activisme écolo, un reportage de Karine Lelouette, réalisé par Clémence Grosse et mixé par Marie Lepeintre. Merci aux activistes d'Ende, Gelande, à Chloé, François et Cécile, ainsi qu'à Joseph Confavreux. L'attaché de production, c'est Mélissa Foust. Notre stagiaire, c'est François Bréus. N'hésitez pas à réécouter le premier épisode de cette série, L'effondrement et moi, sur le site de France Culture et sur la formidable application Radio France.